Bonjour et bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous recevons Christine Lewicki. Nous allons arrêter de râler au boulot. Christine avait déjà sorti un livre il y a quelques années qui est devenu un best-seller d'ailleurs, J'arrête de râler. Et maintenant, on le décline au boulot. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu de connaissance de soi en coopération avec les autres pour des groupes d'en moyenne 150 personnes sur une période de 2 heures. Retrouvons tout de suite Christine. Bonjour Christine.
Bonjour Johanna.
Alors là, on est en direct avec Los Angeles. Quoi. Là, c'est en différé puisque je monte le podcast. Mais donc, on est en lien avec Outre-Atlantique.
Voilà, la Bretagne et la Californie, les deux centres, le pouls de l'humanité.
Là, tout de suite, oui, c'est vrai. Tu es basée à Los Angeles, c'est ça?
Oui, je suis là-bas depuis 18 ans.
Et bien justement, avant, donc tu viens de sortir un livre qui s'appelle « J'arrête de râler au boulot » qui est aux éditions Erol. Et donc, on va prendre comme appui ce livre pour discuter. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter? Notamment, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui.
Donc, je suis Christine Lewicki et quand tu as 16 ans, ma maman m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard pour mon orientation professionnelle. Je lui ai dit « je veux aider les gens à être heureux au boulot ». J'ai été élevée dans une famille où pour gagner de l'argent, il fallait bosser et donc j'avais des petits jobs, des petits boulots et tout ça. Et très jeune, j'ai eu le cœur brisé. J'ai eu le cœur brisé quand j'ai côtoyé des travailleurs, des hommes et des femmes qui se levaient tous les matins pour aller au boulot et quand je les ai entendus le lundi matin dire vivement vendredi. Et donc très vite, j'ai senti le gâchis, en fait, le gâchis que c'était à l'échelle d'une vie de vivre son travail finalement comme un temps en parenthèse que nous devons subir et de vivre avec l'idée que c'est le week-end qu'on peut enfin être tranquille, qu'on peut enfin être bien. Et donc très jeune, j'ai senti ça et donc j'ai désiré orienter ma carrière pour contribuer à améliorer cette situation. Et donc j'ai commencé avec des études en ressources humaines. Enfin, j'ai d'abord fait Hippocagne-Cagne parce qu'après le bac, il n'y avait rien qui était très intéressant pour ce chemin-là. Mais mon objectif était ensuite de faire un master, un magistère à l'époque en ressources humaines. Donc j'ai fait mes études là-dedans. J'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. J'ai dû exercer 4 ans, 5 ans dans les ressources humaines. Mon dernier poste était responsable du personnel de la FNAC de Strasbourg. J'adorais ce job, je m'éclatais. Et mon mari, un soir, je suis rentrée et m'a annoncé que nous allions partir à Los Angeles. Enfin, il m'a annoncé, non, il m'a demandé mon avis.
Ah oui, t'as demandé ton avis quand même.
Non, bien évidemment, il m'a demandé mon avis, mais c'est dur de dire non à Los Angeles tout de même, surtout qu'on avait un projet d'expatriation et on espérait que la FNAC allait m'expatrier, mais comme ça faisait pas très longtemps que je travaillais, on m'avait expliqué que ça se passerait dans quelques années. Et donc, en fait, voilà, tout s'est accéléré. On est parti à Los Angeles pour vivre une aventure. Mon mari est un geek et il avait l'opportunité de bosser dans l'Internet, dans une start-up, le rêve, quoi. Donc voilà, cette situation a fait que pendant quelques temps, je n'avais pas de visa de travail et je me suis concentrée sur la maternité, avoir des enfants. Et c'était un super cadeau en fait parce que j'étais 100% disponible pour vivre ce moment. Alors que si j'étais restée en France, j'aurais très probablement eu un congé maternité assez court et puis repris le travail. Et ça n'aurait pas forcément été moins bien, mais voilà.
Enfin Christine, tu étais entretenue, c'est ça que tu veux dire.
Voilà. Si seulement, parce que 6 semaines après être arrivée, il y a eu la bulle Internet en 2000 qui a explosé. Et donc, mon mari a perdu son travail. Et donc, non, je n'étais pas vraiment entretenue, j'étais fauchée. Et donc, mon mari a perdu son travail, on a galéré. C'était trop tôt pour nous pour rentrer. On voulait rester un petit peu plus longtemps pour améliorer notre anglais et puis vivre un peu plus l'expérience américaine. Et on s'est débrouillé, dépatouillé, tant que bien que mal, pendant quelques mois, pendant même quelques années. En 2003, l'économie a repris. On a investi, on a fait un visa investisseur sur son entreprise et avec ce visa investisseur, j'ai eu le droit de travailler. Voilà. Donc là, j'ai reprise du boulot, différents petits boulots. De grosses questions sur est-ce que je souhaite retourner dans les ressources humaines. Et puis finalement, je me suis rendu compte que dans les ressources humaines, malheureusement, je n'arrivais pas à être suffisamment proche des hommes et des femmes. J'étais beaucoup proche du droit du travail et des obligations et pas suffisamment proche des hommes et des femmes. Et j'ai découvert le coaching qui a été pour moi une révélation et qui correspondait aussi mieux à mon mode de vie notamment du fait que je voulais pouvoir avoir une flexibilité sur mon temps de travail pour mes enfants, bien évidemment, mais aussi pour pouvoir rentrer en France régulièrement, voir ma famille. Et aux États-Unis, il y a 2 semaines de congé quand on est salarié, et ça, c'était vraiment difficile pour moi comme idée à avaler, de pas
Ouais,
pouvoir avoir.
j'ai connu.
Voilà, de pas pouvoir avoir ma famille. Donc voilà, j'ai découvert le coaching, j'ai monté mon cabinet en 2005.
Et tu t'es formée au coaching aux États-Unis?
Oui, je me suis formée au coaching aux États-Unis. J'ai fait une formation certifiée par ICF, la Fédération internationale de coaching. Mon école s'appelait International Coach Academy, qui était une école finalement basée en Australie, mais qui faisait des cours à distance, enfin qui proposait un programme au niveau international. Donc, je me suis formée au coaching et j'ai démarré mon activité de coaching. Et à peu près 2 ou 3 ans plus tard, il s'est passé quelque chose qui a catapulté complètement ma réalité. Donc, j'avais un petit cabinet de coach entièrement américain que j'ai mis longtemps à démarrer parce que ça marchait pas. J'arrivais pas à me vendre, j'arrivais pas à mettre en avant mes services. Tout le monde trouvait que ce que je faisais, c'était formidable, mais personne n'engageait mes services. Donc voilà, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup investi, je me suis beaucoup formée pour comprendre le marketing, le business, l'entrepreneuriat. Et puis mon activité a commencé finalement à tourner, j'avais des clients et c'est marrant parce que je culpabilisais un petit peu à ce que mes clients me payent parce que je voulais vraiment qu'ils en aient pour leur argent. C'était très important pour moi que mes clients en aient pour leur argent, ce qui est, je pense, un besoin pour beaucoup, pour tout le monde, hein, d'être sûr qu'on est honnête et qu'on est authentique et qu'on apporte de la valeur aux autres. Après, quand l'activité a commencé à bien marcher, j'ai commencé à développer une activité en France, notamment en organisant les journées Réveiller l'entrepreneur qui est en vous. Mais ça, c'était un petit peu plus tard. Donc, pour la petite histoire, je voulais vraiment accompagner mes clients pour qu'ils aient de la valeur. Et je me suis rendu compte qu'en tant que coach, tant que mon client se sentait victime, tant que mon client disait « Oh là là, l'économie, mes clients, les impôts, les factures », et qu'il était en posture de victime, moi, en tant que coach, je ne pouvais pas l'aider. J'avais besoin de faire basculer mon client le plus rapidement possible. Quand on a une session de coaching, ça dure 1 heure. J'avais besoin de faire basculer mon client le plus vite possible dans être acteur de solution plutôt que victime des situations. Parce que c'est là où il aurait de la valeur, c'est là où il en aurait pour son argent. C'est quand on était. Voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé dans mon activité à comment amener mon client à passer ce cap et à devenir acteur de solution. Jusqu'à un jour où je suis rentrée chez moi. Donc à ce moment-là, j'avais 3 enfants à la maison en bas âge. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée le soir après les avoir couchés et littéralement j'avais l'impression d'avoir passé une journée pourrie. Sauf que j'ai réalisé que c'était une journée normale de ma vie, c'était rien passé de grave. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais pas mieux que mes clients. En fait, la réalisation, c'est que je me suis dit, Christine, en fait, toi aussi, tu es victime dans la vie. Tu es un peu prétentieuse, là, en tant que coach, à dire aux gens, arrêtez d'être victime. En fait, je me suis dit, toi aussi, tu es victime. Alors, je n'étais pas victime de mon travail, moi, mais j'étais victime de la logistique familiale. Et je me suis dit, tu peux pas te regarder dans le miroir et continuer à prêcher à tes clients le fait de ne pas être victime, alors que maintenant, tu as vu, tu es consciente que toi aussi, tu cultives cette posture de victime, notamment à la maison. Et donc, c'est très important pour moi aussi d'être un coach qui walk the talk, d'accord? Qui dit ce qu'elle prêche. Parce que je pense que ça amène énormément. Et je pense que ça, s'il y a des coachs qui écoutent ce podcast, que c'est vraiment un message important. Je trouve qu'on se doit absolument, en tant que coach, d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prêche à nos clients. Parce que c'est très facile. Puis, quelque part, notre boîte à outils, elle ne vaut rien si on n'a même pas été capable de l'appliquer à nous-mêmes. Donc, je me suis rendu compte que j'étais pas mieux que mes clients et je me suis dit, bah, il faut que ça change. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans le challenge d'arrêter de râler. En fait, je me suis dit, Christine, pourquoi tu te couches ce soir en ayant l'impression d'avoir passé une journée pourrie, alors qu'en fait, c'était une journée normale de ta vie? Je rigole en disant, personne n'est mort et j'ai même pas eu de coupure Internet. Donc, tout va bien. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi tu te couches le soir en ayant l'impression d'avoir passé une journée pourrie? Et surtout, je me suis dit, Christine, en fait, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Parce que c'était ça, je me sentais le soir en ayant l'impression d'avoir subi ma journée. Et notamment toute la dimension à la maison. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me coucher le soir dans cet état-là. Et j'ai pas envie de me dire que j'ai passé ma vie à résister ma vie. Oui, j'ai une maison en bazar. Oui, j'ai 3 enfants qui demandent beaucoup d'attention. Oui, j'ai des clients aussi dont il faut que je m'occupe. Oui, j'ai un compte bancaire qui se vide et j'ai besoin qu'il se remplisse. Mais en même temps, c'est ma vie et il y a plein de belles choses dans cette vie. Il y a plein de choses à vivre, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à apprécier, à savourer. Et j'avais envie d'allumer un nouveau radar, en fait. Donc, ce soir-là, j'ai eu cette fameuse révélation et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'arrête de râler. Parce que la râlerie était la manifestation physique, tangible de cette posture intérieure d'être dans la résistance, d'être dans la posture de victime, d'être dans la posture de la personne qui subit. Je me suis dit, c'est très difficile d'agir sur quelque chose d'intangible. Et donc, je me suis dit, je vais m'attacher à quelque chose qui est tangible, qui sont les mots qui sortent de ma bouche. Et donc, je me suis lancée dans un challenge pour arrêter de râler. J'ai mis un bracelet à mon poignet et je me suis dit, je vais me sevrer. Parce qu'en fait, râler est une habitude. On le fait de manière automatique. À aucun moment, on se dit, tiens, ce truc m'agace, cet email m'énerve. Je vais utiliser la râlerie pour gérer la situation. On le fait en pilote automatique. Et moi, je me suis dit, je vais apprendre à mon cerveau à aller puiser dans d'autres sources, mais à ne pas aller s'enfermer automatiquement dans l'impasse du statut de victime, du statut de la personne qui subit, parce que je me suis rendu compte que c'était une impasse qui m'amenait en plus à passer à côté de ma vie. Donc j'ai mis un bracelet à mon poignet et l'objectif était de faire 21 jours consécutifs sans râler. Pourquoi 21 jours? Parce que j'avais appris dans mon école de coaching que pour changer une habitude et en créer une nouvelle, il fallait faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs. Donc, j'ai mis un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, il fallait changer le bracelet de côté et remettre les compteurs à zéro. Ce qui veut dire qu'il m'a fallu 4 mois pour réussir à faire 21 jours consécutifs sans râler. Pour la petite histoire, tous les soirs, je postais une vidéo. Toutes les vidéos, vous pouvez les voir, elles sont sur le blog j'arrête-de-râler.com. Il y a un onglet, les 21 jours de Christine, et vous pouvez retrouver 4 mois de vidéos, parce qu'il m'a fallu 4 mois pour faire ces 21 jours consécutifs. Et le blog a fait du bruit, a fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, je pense qu'on s'est rencontrés, Johanna, assez rapidement. Le blog a fait du buzz. J'ai eu un contrat d'édition avec Erol et on a sorti le premier livre « J'arrête de râler ». Qui a eu une couverture presse absolument extraordinaire et dont on a vendu 300 000 exemplaires.
Oui, parce que c'est encore mieux que Rocky ou Rambo. Il y a eu combien de J'arrête de râler? Parce que là, c'est J'arrête de râler au boulot. Donc, le premier était J'arrête de râler. Mais il y en a eu un autre entre deux, non?
Oui, alors après, il y a eu un carnet d'exercices. Parce que je me suis rendu compte que moi, quand j'avais arrêté de râler, j'avais appliqué à moi-même des outils parce que j'avais ma boîte à outils de coach. Et je me suis rendu compte que mes lecteurs, ils n'avaient pas forcément cette boîte à outils de coach. Et donc, ils se retrouvaient coincés, ils n'arrivaient pas à arrêter de râler. Donc, j'ai créé un carnet d'exercices qui, maintenant, n'existe plus en lui-même. Mais on a combiné le premier J'arrête de râler, le carnet d'exercices, dans le J'arrête de râler intégral. Donc maintenant, celui que je recommande aux lecteurs pour ce premier livre, c'est l'intégral qui combine le livre et les exercices de début de cette aventure J'arrête de râler. Et ensuite, j'ai coécrit avec ma sœur Florence « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint ». Et j'ai voulu écrire ce livre suite à un article que j'ai publié sur mon blog qui s'appelait « 7 trucs pour arrêter de râler sur mes enfants », qui était en fait les meilleurs conseils. C'était vraiment un article un peu anodin que j'avais écrit en racontant les meilleurs conseils qu'on m'avait dit, que ce soit le conseil de la maîtresse de mes enfants, de ma mère, de ma voisine, enfin les conseils qui m'avaient le plus aidé pour que ça se passe mieux à la maison. Et cet article, en quelques jours, a eu 100 000 visiteurs. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les parents souffraient, les papas et les mamans souffraient. Et vraiment, qu'il y avait un désir que ça se passe mieux à la maison, mais que les gens, malgré le fait qu'ils avaient ce profond désir que ça se passe mieux, n'arrivaient pas à faire en sorte que réellement, concrètement, la maison soit un lieu de plaisir, de coopération, de bienveillance et voilà, de bien-être à la maison. Donc, j'ai voulu écrire ce livre parce que, et en plus, j'ai voulu l'écrire parce que je me suis rendu compte qu'on râlait souvent le plus sur les gens qu'on aime le plus au monde. nos enfants logique. Logique. Et j'explique d'ailleurs dans le livre pourquoi. Donc, ça, c'est j'arrête de râler sur mes enfants. Et mon conjoint. Et ensuite, voilà, vient de sortir, j'arrête de râler au boulot. Ce livre a été écrit à la demande de mes lecteurs qui m'ont dit, Christine, ok, super, j'arrête de râler, mais quand même, on passe notre vie au boulot. On passe notre vie au boulot et c'est compliqué parce qu'on doit interagir avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies. On rentre dans un système qui est bourré de contraintes, bourré d'obligations. Non seulement on doit rentrer dans une fiche de poste, mais on doit rentrer dans des deadlines et en plus, on est constamment évalué. Et en fait, ça vient vraiment nous chercher, ça vient créer beaucoup d'irritants dans notre vie. Et donc, mes lecteurs m'ont dit, est-ce que tu peux nous donner des pistes et écrire un livre « J'arrête de râler au boulot » pour que notre vie au boulot soit moins irritante et plus satisfaisante et qu'on ait des clés, des choses à activer pour que ça se passe mieux collectivement. Et j'ai donc voulu écrire ce livre. Moi, j'avais quitté l'entreprise, les grosses boîtes, depuis quelques temps quand même. J'étais plus en mode entrepreneur, coworking, innovation. C'était plus mon univers. Et donc, j'ai voulu amener quelqu'un qui maîtrisait vraiment l'univers de l'entreprise pour co-écrire ce livre. Donc, j'ai écrit ce livre avec une amie, Emmanuelle Nave, qui est DRH depuis 20 ans. Ces dernières années, elle est chez Groupama.
Quels sont les apports de ce nouveau livre par rapport à J'arrête de râler l'intégrale et J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, d'ailleurs?
L'apport, c'est qu'il parle réellement. Ce que les gens aiment dans ce livre, c'est qu'il adresse vraiment les problématiques rencontrées dans l'entreprise.
Mais
Les lecteurs...
est-ce que ça veut dire qu'on utilise les mêmes réponses ou c'est des réponses qui sont différentes au boulot? C'est-à-dire, quand je dis réponse, outils, techniques, exercices, est-ce que c'est différent?
Alors, il y a certains outils et techniques qui sont différentes, mais il y en a pas mal qui sont relativement les mêmes. Mais par contre, elles sont présentées sous le prisme du travail. Pourquoi on râle au boulot, comme je disais tout à l'heure? C'est marrant, je fais souvent cette blague. Je dis, moi avant d'arrêter de râler, je me levais le matin et avec le postulat que tout allait super bien se passer. Et que, à la limite, quelque part, tout le monde allait. Je me levais le matin avec ma longue to-do list de choses à faire. Déjà, avant même de me lever, la journée était trop courte par rapport à tout ce que j'espérais accomplir. Mais bon, je faisais comme si je ne l'avais pas vu. Et je partais du postulat que tout le monde allait dégager la route et me laisser passer. Et qu'en plus, on allait m'aider avec ma to-do list. Et en fait, la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'on se lève tous avec nos objectifs, nos intentions de ce qu'on voudrait faire. Et puis, dans la journée, on se rencontre les uns les autres. Et puis, parfois, ça ressemble un peu à une piste d'auto-tamponneuse, quoi, parce qu'on se rentre un peu dedans. Et donc, l'objectif de ces livres, c'est de transformer la piste d'auto-tamponneuse en piste de danse. Mais déjà, la première chose, c'est d'accepter le fait que quand on se lève le matin pour aller au boulot, il va y avoir des irritants, il va y avoir des choses qui ne vont pas se passer, qui vont nous ralentir, qui vont nous distraire, qui vont s'ajouter, qui vont... il va y avoir des imprévus. Et donc, l'idée, la première chose, c'est d'arrêter de faire comme si on était outragé. Oh mais mon Dieu, c'est un scandale! Non, parce que c'est tous les jours comme ça.
Mais j'ai l'impression que chez le râleur, c'est parce qu'il a une vision fixe de comment les choses devraient être, comment ça devrait se passer. Et c'est ça qui irrite, c'est une vision fixe du monde.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, quand on dit chez le râleur, moi, je pense qu'on est tous râleurs. Alors, on a sûrement autour de nous un gros râleur ou une grosse râleuse qui est vraiment identifiée. OK. Et c'est vrai que sur le livre, quand je fais des dédicaces et tout, souvent les gens disent « Ah, je vais l'acheter pour un tel, je vais le donner à un tel, on veut toujours le donner à quelqu'un d'autre. » Mais moi, mon invitation d'abord, elle est de dire aux auditeurs de ce podcast, est-ce que vous, en toute honnêteté, même si vous râlez 10 000 fois moins que cette fameuse personne que vous avez en tête, est-ce que vous pouvez dire que vous râlez pas? Et surtout, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez que vos râleries polluent votre vie? Et est-ce que vous avez envie de vivre une vie sans râlerie? Qu'est-ce qui deviendrait possible pour vous si vous pouviez naviguer cette vie que j'appelle ordinaire et pas toujours sexy? Parce qu'il faut être honnête, la vie, elle est ordinaire et pas toujours sexy. Oui, ce qu'on voit sur Instagram et sur Facebook, c'est toujours très sexy, mais la vie est globalement ordinaire et ça n'empêche pas qu'elle est merveilleuse, justement. Elle est merveilleuse.
Et tu dis ça alors que tu vis à Los Angeles, c'est pas très sérieux. Normalement, on a une image de que t'as une vie glamour, Christine.
Et tous les Américains rêvent de vivre à Paris, hein.
Ça, mais c'est non, juste il devrait rêver de vivre à Port-Louis. Mais bon, voilà. Je le dis pas trop fort parce qu'on risque d'être... Non, c'est nul ici. Justement, donc si je prends conscience que, en effet, j'achète pas le bouquin pour quelqu'un d'autre, mais bien pour moi, pour arrêter de râler, comment je m'y prends? Parce que c'est déjà... addictif, non? C'est pas un peu une drogue de râler?
Ah, complètement. D'abord, c'est une habitude, donc on le fait pas... On ne le fait pas consciemment. Et en plus, comme c'est une habitude, ça veut dire que ce sont des circuits neuronaux, ce sont des réflexes neuronaux, notre cerveau. Dès que notre cerveau est confronté à une frustration, et donc je viens d'expliquer que des frustrations, il y en avait plein et qu'il y en aurait toujours, il part automatiquement en mode posture râleur, posture victime, posture je subis. Pourquoi? Parce que le cerveau est un organe formidable qui aime bien nous simplifier la vie et qui donc aime bien créer des raccourcis. On appelle ça au niveau des synapses. Les synapses du cerveau se rapprochent pour nous permettre de développer des habitudes qui, du coup, nous évitent de devoir réfléchir à tout, penser à tout et provoquent des automatismes. D'accord? Regardez sous la douche, quand vous vous lavez très probablement toujours de la même manière. Vous commencez par...
les fameux chemins neuronaux.
Voilà, les chemins neuronaux. Donc aujourd'hui, alors en fait, et donc plus on utilise ce chemin neuronal, plus il devient fort, plus il devient musclé. Et donc aujourd'hui, la râlerie, pour beaucoup d'entre nous, c'est un autoroute neuronale. On n'a pas un petit chemin de campagne, on a un autoroute, on a carrément une six voies. Dès qu'une frustration émerge, boum, on dégomme, on se positionne en râleur. Alors, je parlais tout à l'heure des différents râleurs et du fait que moi, je pense que tout le monde râle. Moi, j'étais pas une râleuse qui râlait fort, je cassais pas les oreilles des gens. Je pense que si j'avais vu mon propre livre, je l'aurais pas acheté. Je me serais dit, moi, je râle pas. Donc, la râlerie, ce n'est pas forcément la personne bougonne qui nous casse les oreilles. La râlerie, c'est ce moment où je rencontre une frustration du quotidien, sachant que je vais en rencontrer 50 dans la journée et qu'il y en aura encore 50 demain et 50 après-demain, d'accord ? Ça, ça ne change pas. Mais automatiquement, je me positionne, je souffle, je peste, je vais dire « ça fait 100 fois que je te le dis, c'est toujours pareil, c'est infernal ». Mais je ne le dis pas. Moi, je râlais de manière très… normal, en fait, beaucoup de râleurs râlent.
Surtout pour un Français.
La majorité des râleurs, voilà, exactement, parce qu'en plus, notre culture, mais oui, parce que notre culture renforce ces neurones, parce qu'en fait, on fait comme tout le monde. Non seulement c'est nos neurones, mais en plus, on rentre dans un moule sociétal.
Alors, comment je fais pour en sortir ?
Voilà, alors la première chose pour en sortir, c'est d'en avoir envie. C'est bête, mais c'est vital. Si vous écoutez le podcast et vous vous dites « je vais arrêter de râler parce que ça a l'air d'être un truc intelligent, un truc qu'il faudrait que je fasse », mais que vous n'avez pas vraiment pris le temps de décider si vous en aviez envie pour vous-même. Moi, quand j'ai arrêté de râler, c'était d'abord un choix égoïste. Je ne l'ai pas fait pour les autres, je ne l'ai pas fait parce que c'était bien, parce que c'était à la mode, parce qu'il fallait le faire. Je l'ai fait parce que je me suis dit « Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie ». C'était vital, j'en avais une envie. Il fallait que ça change. Et qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là, quand j'ai dit cette phrase-là, c'est que j'ai mesuré combien ça me coûtait de continuer à râler. Et c'est ça qui génère l'envie. Et beaucoup de personnes commencent le challenge d'arrêter de râler et me disent « Oh, j'y arrive pas, j'ai arrêté ». Et moi, je pense que ce sont des personnes qui l'ont commencé sans avoir une vraie envie d'y arriver. D'accord ? Donc, la première chose, c'est de mesurer combien ça me coûte. Est-ce que moi, aujourd'hui… Donc, d'abord… Très souvent, les gens ne savent pas à quel point ils râlent. Donc, juste mettez un bracelet à votre poignet et, dans un premier temps, changez le bracelet de côté à chaque fois que vous voulez râler.
Donc,
et
ça, en général, ça permet de réaliser à quel point on râle.
Voilà. Et ça, c'est un choc.
Ouais.
Les gens se disent « Mais mon Dieu, je râle tout le temps et je ne le savais pas. » Alors, j'accusais mon père, mon collègue d'être le plus gros râleur, mais en fait, mon Dieu, je ne suis pas mieux.
Et une fois que cette réalisation est suffisante ou il y a d'autres techniques derrière concrètes pour arrêter de râler ?
Donc la première chose c'est d'en avoir envie, ok ? D'abord, ok. Ensuite, il y a différents leviers. C'est de quand quelque chose nous fait râler, donc que ce soit n'importe quoi, le camion poubelle, l'email, le fait qu'il fait pas beau, les gamins qui n'ont pas rangé leurs affaires, la réunion, le mec qui dit un truc complètement à côté de la plaque en réunion, j'en sais rien, quelle que soit la thématique abordée. Là, on propose dans le livre un chemin de réflexion pour se dire « qu'est-ce que j'en fais ?» Voilà, ce truc m'agace, qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'arrêter de râler, ça veut dire arrêter de râler, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on va arrêter de laisser la vie nous pourrir la vie. Donc, il y a toute une dimension lâcher prise dans arrêter de râler. Et il y a aussi toute une dimension « je vais changer ma vie ». Si ma vie me fait râler, arrêter de râler, ça veut dire que je vais changer les choses. Je ne vais pas juste mettre mes lunettes roses et prétendre que je suis au pays des bisounours et tout ce qui m'agaçait hier ne m'agace plus. Non, je vais retrousser mes manches et je vais changer ce que je peux changer. Maya Angelou disait « Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude, ne râlez pas. » D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la philosophie derrière ce livre. Alors, quand quelque chose vous fait râler, j'invite les auditeurs à penser à un truc qui les a fait râler ou un des irritants principaux du moment. Pour eux, d'accord ? Donc, pensez à cette chose-là. Après, suivez-moi. Première question à se poser, est-ce que la chose peut être changée ? Si je me lève le matin et qu'il pleut, je peux râler tant que je veux. En fait, oui, je me punis.
C'est retors, parce que si c'est quelqu'un, par exemple, l'attitude de quelqu'un qui nous fait râler, ou par exemple, moi, je pensais là à la façon dont quelqu'un conduit. C'est-à-dire, par exemple, il ne met jamais son clignotant, il n'est jamais passé les gens à droite.
Bon, alors, est-ce que c'est...
Je ne peux pas le changer, mais en même temps, je me dis que, en faisant des remarques, machin, ça pourrait influencer, tu vois. C'est là où...
D'accord.
C'est quoi changer quelque chose ou quelqu'un ?
Voilà, je suis d'accord, parce que même quand je prends l'exemple de il pleut dehors, est-ce que ça peut être changé ou pas? Non, ça ne peut
Non,
pas être changé, mais je
ça
pourrais
c'est.
aussi déménager en Californie.
Oui.
Donc ça, tu vois,
Ah,
il y
mais
a
là, on est
toujours
déjà dans
quelque chose.
l'action.
On est déjà dans l'action, mais tu vois, donc
Oui.
est-ce que ça peut être changé ou pas? Oui ou non? Si ça ne peut pas être changé, si on estime que ça ne peut pas être changé ou si on estime qu'on n'a pas l'intention de le changer, enfin, tu vois, là, on va aller vers le lâcher-prise. Là, on se dit, en fait, il fait moche ce matin, mais pester sur le mauvais temps ne rend pas ma journée meilleure. Ça change rien et quelque part, ça me punit moi-même, en fait. Je souffre encore plus. Non seulement il fait moche, mais en plus, je suis victime du fait qu'il fasse moche. Alors qu'il pourrait juste faire moche. Et je pourrais décider que je laisse pas le mauvais temps me voler une once de sérénité. Voilà, exactement. Donc ça, c'est première chose. Après, il y a la deuxième étape, c'est oui, ça peut être changé. Donc là, par exemple, ton exemple de la conduite. Ça peut être changé. Enfin, j'ai envie de cultiver l'idée que ça pourrait être changé. Donc là, la question, c'est de se dire, est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça dépend des autres? Parfois, c'est un peu les deux. Souvent, c'est un peu les deux. D'accord? Donc, ici, ça dépend des autres. Là, pour là, par exemple, l'instance de ton conducteur. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu le connais, ce conducteur, ou est-ce que c'est n'importe qui sur la
Non,
route?
non, je le connais bien.
D'accord, OK. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur les chauffards sur la route. Et alors, ils peuvent gueuler tant qu'ils veulent dans leur voiture, surtout les chauffards de la Terre. L'autre, il l'entend même pas.
Non, ça,
Donc,
je.
là, c'est pareil. Je ne laisse pas les chauffards me voler une once de sérénité. Je prends mes distances. Je pars du principe qu'il y aura des mauvais conducteurs sur la route. Donc, j'arrête d'être outré des gens en contrat. D'accord? Et je décide de faire de mon trajet un temps de... J'écoute des émissions, je mets de la musique, voilà, mais je décide de pas allumer le radar de toutes les personnes qui conduisent mal. Après, si tu connais, donc si tu penses que ça dépend de quelqu'un d'autre, là, la révélation pour moi dans cette aventure, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je passais mon temps à pointer du doigt les coupables. Donc là, voilà, l'autre est coupable, c'est à cause de lui que je râle, parce que lui doit changer pour que moi j'aille mieux, pour que moi ça aille mieux
Oui,
pour moi.
il doit mettre son clignotant.
Et doit mettre son clignotant. Donc lui doit changer. Et donc je pointais du doigt les coupables. Et en fait, ce que j'ai réalisé qui a été pour moi un tournant 360 sur ma manière d'aborder les choses, c'est qu'un coupable n'a jamais envie de coopérer. Je ne sais pas toi, mais moi, si quelqu'un vient me voir, en général, en plus, quand on râle, on active trois leviers quand on râle en général. Un, c'est le ton. Donc en général, on a un ton un peu amer, un peu pour faire comprendre à la personne que. Attention, sirène d'alarme, faut m'écouter, ok? Donc on utilise un ton, déjà, on annonce la couleur, pas forcément fort et agressif, hein, souvent c'est très subtil, hein. Moi c'était très subtil mes râleries, hein. Mais il y avait un ton quand même, on me voyait venir, on m'entendait arriver. Deuxième chose, c'est qu'on pointe du doigt les coupables, on dit à l'autre c'est de ta faute, c'est toi qui dois changer, c'est toi qui conduis mal, t'as rien compris, c'est dangereux, tu te rends pas compte, voilà. Et la troisième chose, c'est qu'on exagère, on va dire c'est toujours pareil, tu mets jamais ton clignotant. Je te l'ai déjà dit 100 fois, tu m'écoutes pas. Voilà, donc on va exagérer, on va amplifier. Moi, j'ai réalisé que si on vient me parler et qu'on me rend coupable et qu'on exagère et qu'en plus on utilise un ton pas très agréable, mais j'ai
Ouais.
pas du tout envie de t'écouter. Absolument pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Soit j'ai envie de me barrer, j'ai envie de dire écoute, ça m'intéresse pas. D'accord? Alors on peut pas toujours en entreprise notamment, on peut pas toujours, enfin en général, on peut pas se barrer, on peut pas quitter la salle de. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est assez exceptionnel quoi. On peut pas
Non, mais ils
facilement.
peuvent se fermer, par exemple.
Voilà, donc soit on s'en va physiquement, soit on s'en va mentalement. On se dit,
Voilà.
ça y est, il pète un plomb, ça va lui passer. Mais là, la personne, tu vois, quelque part, quand je râle, j'espère que la personne va se rapprocher de mon problème. J'espère que toi, ton chauffard, t'espères qu'il va t'entendre. Donc, quelque part, tu utilises un ton un peu amer, tu le rends un peu coupable, pas méchamment, tu veux pas. Tu le fais pas méchamment, tu le fais parce que tu te dis, la personne va comprendre que j'ai besoin qu'elle change. Tu te dis, ça va faire un peu un électrochoc, pas méchant, tu vois, mais où la personne va se dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on espère en fait. On espère que ça fasse un petit électrochoc et que la personne se dise, ah, voit tout d'un coup qu'il faut qu'elle change. Donc notre intention, elle n'est pas mauvaise quand on râle, hein. On le fait parce qu'on a besoin d'être entendu et on pense qu'en activant ces leviers, bah, l'autre va changer un peu. Enfin, va comprendre qu'il faut qu'il change. Sauf qu'en fait, c'est l'opposé qui se passe. La
Donc il faut que
personne.
je change mon mode de communication?
Voilà. Alors, juste très rapidement, je te développe les trois points. Soit la
Ouais,
personne va
dis-moi.
fuir, elle va fuir physiquement ou mentalement. Okay? Soit la personne va attaquer. Elle va dire, écoute, ça fait 20 ans que je conduis, j'ai jamais eu d'accident, alors c'est bon.
C'est
D'accord?
exactement ce qu'il a dit.
Exactement. La personne va attaquer et va se défendre. Et là, toi, tu vas dire oui, et là, toi, tu vas te défendre, l'autre va se défendre, et ça va être un conflit de qui a tort, qui a raison, et tu sais bien, personne n'a envie de perdre ce genre de conflit. Je dis en général, ça ne s'arrête jamais jusqu'à temps qu'il y ait un mort. Alors, c'est pas vraiment un mort, mais c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui va dire, bon, écoute, tu me saoules, j'en ai marre.
Ah non, on s'est fait flasher.
Voilà.
Bon. Comme par hasard.
Donc ça, c'est... Et la troisième solution, la troisième alternative, c'est la soumission. Et ça, c'est très vrai dans des relations de pouvoir, notamment des relations de pouvoir professionnelles ou des relations de pouvoir d'autorité parentale ou d'autorité hiérarchique, d'accord? Où la personne va se soumettre. Et le problème, c'est que quand la personne se soumet, ben, elle va se soumettre sur ce coup-là. Donc, par exemple, pendant le trajet, quand elle est avec toi, cette fois-ci, cette personne va faire attention parce que voilà, elle s'est soumise, mais tu n'as pas obtenu sa coopération. Demain, il faudra encore que tu pètes un plomb pour qu'elle refasse attention à la manière dont elle conduit. Tu as obtenu de l'obéissance. Et je pense qu'en entreprise, on a beaucoup de stratégies qui permettent, et à la maison aussi, qui permettent d'obtenir de l'obéissance. Mais le problème de l'obéissance, c'est qu'il faut ressortir le bâton demain pour que la personne obéisse. Et beaucoup
Mais
de personnes...
attends, donc ça veut dire que râler n'a aucun bénéfice?
Non, voilà, râler n'a aucun...
C'est vrai, il n'y en a aucun. Mais je crois avoir vu passer un article qui disait justement que râler pouvait libérer du stress ou justement extérioriser au lieu de garder des choses à l'intérieur qui pourrissent.
Alors, oui, quand on est dans un état de cocotte minute, parce que voilà, on a laissé traîner des choses, on n'a pas réussi à gérer en amont, ou je ne sais pas, enfin bref, il y a une situation où on est fatigué, on a mal dormi, voilà, bref, too much, on est en état de cocotte minute, il faut que ça sorte, d'accord? Il faut que la pression tombe, d'accord? Alors, moi, quand j'ai arrêté de râler, je me suis posé deux questions. La première question, c'est que je me suis dit, si râler ne fait pas partie de mes options, parce que c'est ça, arrêter de râler, c'est choisir que râler n'est plus une option. Je vais apprendre à mon cerveau d'aller en trouver d'autres que la râlerie.
Et du coup,
Alors, la première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je peux faire autrement pour que la vie ne me mette plus dans cet état de cocotte minute constamment. Je me suis rendu compte qu'en fait, et très souvent, ça m'arrivait, moi, tous les matins, je pétais un plomb.
En te levant comme ça
Non, après avoir vécu quelques minutes avec mes enfants.
Ah, quand même, tu me rassures.
Voilà.
Ils ont l'air sympas, tes enfants.
Ils sont adorables. Mais ils sont très sympas, surtout depuis que j'ai arrêté de râler, ça a tout changé. Mais ils étaient aussi adorables avant. Hein, mais,
Donc concrètement, est-ce qu'il y a
des
façons de s'exprimer sans râler quand on veut sortir de ça?
Oui. Alors, juste deux choses. Donc, un, c'est... Oui, il faut que la pression, elle sorte quand on est dans un état de cocotte minute. Mais la première question, c'est qu'est-ce que je vais changer pour que la vie ne me mette plus dans cet état-là? Et je me suis souvenue de cette phrase de Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. » Et moi, combien de fois on voit ces comportements en entreprise où les réunions ne se passent jamais comme prévu et ça ne marche jamais. Et encore une fois, le projet, on est à la bourre sur la deadline. Et en fait, on fait toujours la même chose et on attend un résultat différent. Donc là, la première question, c'est de se dire « Qu'est-ce que je vais faire différemment ?» Qu'est-ce que je vais essayer différemment pour essayer d'obtenir un résultat différent? Parce que manifestement, la manière dont on fait les choses depuis toujours ou depuis je ne sais pas combien de temps ne marche pas. Parce que souvent, en plus, on râle encore plus parce qu'on se dit « c'est une fois de plus, ça ne marche pas !» Une fois
Mais
de
moi,
plus
Alors maintenant, les solutions, Christine. Comment on fait alors pour sortir de ça?
Et donc moi, la première chose que j'ai cherché à faire, c'est à supprimer les irritants récurrents. C'est l'air à me dire « quelles sont les choses qui me font râler tout le temps ?» En fait, c'est tous les jours, ou c'est toutes les semaines, ou c'est à chaque fois. Et je me suis dit, si j'arrive à gérer cet irritant, soit en lâchant prise, soit en passant à l'action, soit en communiquant différemment, c'est ça les trois leviers, hein. Lâcher prise, action, communication. Si je gère cet irritant, ensuite cet irritant n'est plus là, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de râler, parce que j'ai plus envie, j'ai plus besoin, je suis plus irritée.
Donc j'abandonne totalement la voie qui fait que je deviens un grand maître zen qui n'est pas irrité par les choses de ce monde.
Ah non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout.
Tu l'abandonnes complètement cette voie, pourtant certains vont sur ce chemin.
Oui, alors pour activer la dimension lâcher prise.
D'accord. C'est le côté zen de ta méthode.
Oui, le côté sagesse, je ne laisse pas les choses mériter, fait partie de la méthode. Mais en même temps, les deux autres gros volets de la méthode, c'est de devenir entrepreneur de sa vie et d'arrêter d'attendre des autres, que les autres changent pour que notre vie aille mieux, mais de chercher à assumer notre part de responsabilité. Dans le livre « J'arrête de râler au boulot », on développe un nouvel outil qu'on n'avait pas développé dans les autres, qui sont les zones d'influence, de pouvoir identifier à quel point est-ce que je peux influencer cette situation. Il y a des événements qu'on peut entièrement influencer, il y a des événements qu'on peut tenter d'influencer un peu, Il y a des événements qu'on pourrait influencer, mais ça va demander un investissement énorme. Par exemple, il faudrait devenir président. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Pourquoi pas? Je veux dire.
Ah non, non, mais si! Si, si, quand on se plaint de l'organisation du pays, par exemple, c'est vrai que notre pouvoir d'action est limité. Mais ok. On est déjà à presque 40 minutes, Christine.
Oui.
Donc on est parti très loin dans le temps. Je suis un peu. Est-ce que il y a des choses essentielles dont tu veux parler, dont on n'a pas parlé, pour que j'oriente une question là-dessus et qu'on puisse malheureusement conclure? Je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais le temps a
j'aimerais
filé,
bien,
quoi.
j'aimerais bien parler de l'aventure qu'on a vécue à travers ce livre, qui fait qu'on a animé des ateliers en entreprise, en fait. On a fédéré des équipes pour qu'ils aient ensemble une conversation sur ce sujet.
Ok, donc si je le pose en question, ça ferait quelque chose comme aujourd'hui, on peut apprendre à ne plus râler.
Oui, on peut tout à fait apprendre à ne plus râler. Encore une fois, il faut d'abord en avoir envie, bien évidemment. Et ensuite, il faut être prêt à activer différents leviers qui vont nous aider à gérer ces frustrations du quotidien. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire quand on est seul. Et on a beaucoup de personnes, notamment sur J'arrête de râler au boulot, on s'est projeté, on a imaginé des lecteurs qui lisent le livre, qui travaillent dans une entreprise et qui sont un peu, ben voilà, le seul uberlu qui a lu le livre et qui se retrouve un peu seul à essayer de mettre en pratique les outils. Mais en fait, se retrouve sous la pression d'une culture d'entreprise qui vient créer une résistance ou qui ne soutient pas la démarche de l'individu. Et donc, on a voulu, pour écrire J'arrête de râler au boulot, on a développé des ateliers qui sont un mélange atelier book club, club de lecture, où donc on propose aux équipes, et on l'a fait dans plusieurs entreprises, chez Suez Environnement, chez Groupama, chez Féminin Bio. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans plusieurs IMS, enfin, on a fait dans plusieurs entreprises, on a animé ces ateliers. Et donc, on propose aux collaborateurs d'un étage, d'un département, d'une entreprise, ceux qui le veulent, ceux qui en ont envie, de se retrouver 6 fois pendant 1 heure. Ça peut être à l'heure du déjeuner, le matin, le soir, ça c'est en fonction de l'organisation de l'entreprise, pour cheminer, discuter ensemble de cette idée d'arrêter de râler. Est-ce qu'on trouve que c'est débile comme idée? Est-ce qu'on trouve que c'est intéressant? Si c'est intéressant, dans quel domaine? Et puis, comment on peut surtout le vivre ensemble quotidiennement. Et donc, on a créé des trames d'intervention et des programmes pour 6 rencontres d'une heure qui amènent donc les collaborateurs de l'entreprise à cheminer ensemble. Et du coup, il y a une dynamique intérieure, interne qui se met en place, des échanges qui se transforment dans les couloirs, des nouvelles habitudes qui se développent pour résoudre des conflits, des tentatives, des essais, des échecs. Mais en tout cas, la personne n'est pas seule et chemine avec d'autres collègues dans l'entreprise. Et petit à petit, on arrive à travers ces ateliers à changer la conversation et à changer la culture pour que chacun puisse devenir acteur de solution plutôt que victime des situations.
On est arrivé au bout de notre temps réglementaire. Je pense qu'en fait, il y aurait beaucoup à creuser pour voir des exemples concrets, mais je suppose que le mieux, c'est de lire le livre.
Voilà, lire le livre et d'aller sur le blog j'arrêtederaler.com
J'arrête de râler.
où il y a énormément de vidéos, énormément d'articles, il y a aussi des informations sur ces fameux ateliers en entreprise. Donc voilà, c'est une mine de ressources, ce blog.
Et maintenant, je te pose la première question, qui est à propos des échecs. Est-ce que dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu as vécu quelque chose qui peut être vu comme un échec et qui t'a particulièrement fait avancer ou appris?
Voilà, j'ai vécu un échec managérial dans mon équipe avec une de mes premières assistantes, une de mes collaboratrices. Et en fait, c'est une personne avec qui, assez tôt dans la relation, j'ai senti qu'on n'était pas compatible, enfin qu'il y avait une incompatibilité dans nos modes. Voilà, qu'il y avait quelque chose qui était off, qui ne marchait pas entre nous. Et j'ai voulu voir le positif. J'ai voulu faire voilà, un peu la méthode Coué, voir le positif. Et il y avait des choses positives. Je pense que dans toute relation, il y a souvent des choses positives. Donc, j'ai voulu nourrir, nourrir, nourrir le positif. Et je pense aussi que j'avais très peur de regarder en face ce qui n'allait pas et d'en parler, de parler, d'avoir une conversation difficile, en fait, avec cette personne. Donc, j'ai un peu fait l'autruche pendant trop longtemps. Et puis au final, notre relation s'est malheureusement très mal finie. Et je pense qu'on a toutes les deux souffert de cette séparation. Et
Donc,
je
qu'est-ce que
pense
tu en as
que
appris?
ce que j'ai appris, c'est que à vouloir être sympa, et à vouloir éviter à vouloir faire l'autruche en fait, à vouloir être sympa en faisant l'autruche sur des choses qu'on sent qui devraient être adressées, et ben en fait, on fait parfois plus de mal au final.
Alors la deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer?
Alors je vais être un petit peu biaisée, mais c'est vraiment la vérité, c'est d'avoir arrêté de râler.
Je comprends. Mais alors je vais venir te titiller parce que je crois que c'est par ton blog que j'ai découvert il y a quelques années, mais que je n'ai jamais utilisé, la méthode Pomodoro.
Ah oui.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la méthode Pomodoro?
Oui, tout à fait. La méthode Pomodoro est pour moi une solution pour gérer des problèmes de manque de concentration. Aujourd'hui, je suis personnellement dans ma vie extrêmement sollicitée. Et puis finalement, c'est très facile pour moi, notamment quand j'ai un dossier difficile à travailler qui me demande de mobiliser mon cerveau de manière intense. Ben forcément, je fais des résistances parce que je suis un peu flemmarde, comme tout le monde. Et donc, c'est plus facile pour moi d'aller m'occuper de mes réseaux sociaux, de répondre à mes emails et de faire toutes les urgences, de gérer toutes mes urgences. Du coup, j'ai pas besoin de me mobiliser pour faire avancer des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, la méthode Pomodoro est une méthode qui de gestion, en fait, c'est une horloge, en fait, c'est un décompte, c'est une espèce d'horloge qui nous invite à travailler de manière concentrée sur une seule tâche pendant, alors j'ai un trou, si c'est 20 ou 25 minutes, tout d'un coup j'ai un compteur sur mon téléphone, je crois que c'est 25 minutes, j'ai un compteur sur mon téléphone qui, tout le monde peut télécharger un compteur Pomodoro sur son iPhone, sur son Android, ou même sur un ordinateur, il y a des tonnes de compteurs gratuits que vous pouvez télécharger. Et donc Pomodoro nous invite à travailler pendant 25 minutes sur une tâche, uniquement une tâche. On fait 25 minutes, ensuite on fait 5 minutes de pause, ensuite 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes. 5 minutes de pause, 25 minutes, un quart d'heure de pause. Donc on a à peu près l'équivalent d'une heure, un peu plus d'une heure de travail et après on a un quart d'heure de pause. D'accord? Non, enfin 2 heures, 2 heures de travail, 25, 30, oui, 2 heures de travail et on a un quart d'heure de pause. Et la règle, c'est que quand le pomodoro, quand le timer est en train de se décompter, je suis sur une tâche, sauf quand je l'ai fini, je peux passer à la suivante, bien évidemment. Mais je n'ai pas le droit de me lever pour aller faire pipi, je n'ai pas le droit d'aller chercher un café. Je n'ai pas le droit de répondre à mes SMS, je n'ai pas le droit de... Voilà, je vais pas chercher un pull, je ne bouge pas de la tâche et je lui donne toute mon attention pendant 25 minutes. Après, j'ai 5 minutes de pause. C'est à ce moment-là que je vais faire pipi, que je vais chercher un pull, que je prends un café et que je réponds à mon SMS.
La troisième question, c'est quelle est la qualité primordiale selon toi à développer pour être un bon manager?
J'ai réfléchi à cette question et je crois que la réponse qui m'appelle le plus, c'est la vulnérabilité. Je me suis rendu compte que à vouloir être fort, on passe à côté de notre puissance. Et donc, la vulnérabilité, c'est oser dire ce qu'on ressent, c'est croire en l'intelligence du cœur, c'est pas forcément tout remettre notre réussite, remettre les avancées de nos projets, uniquement entre les mains de notre intelligence cérébrale. Mais c'est aussi oser confier une partie de notre journée ou de notre guidance à notre intelligence du cœur. Et donc, bah, oui, mais sauf que le cœur, c'est quelque chose qu'on contrôle un peu moins. Et donc, qui peut parfois montrer des choses, peut montrer du désarroi, de la tristesse, de la joie aussi. Mais en tout cas, permet de cultiver une authenticité. Et voilà, j'ai l'intime conviction que quand on ne laisse pas cette part vulnérable ou cette part du cœur devenir visible, eh ben, on est peut-être fort, mais on passe à côté de notre puissance.
Est-ce qu'il y a un livre que tu nous conseillerais à la lecture?
Alors, un livre pour être un meilleur manager. Moi, j'ai un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, donc je l'ai ressorti pour essayer de me souvenir de ce qu'il y avait, mais je me souviens que c'était un livre qui m'avait beaucoup marqué. Alors, c'est un livre en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit en français, c'est Tribal Leadership, qui a été écrit par Dave Logan et aussi John King et Ali Fisher-Wright. J'ai eu la chance de rencontrer Dave Logan lors d'une réunion de la Fédération de coaching à Los Angeles en 2012. 12, il m'a dédicacé le livre en 2012. Et c'est un livre qui réfléchit vraiment à comment faire évoluer l'état d'esprit des équipes, en fait. Et il invite les lecteurs, et notamment les managers, à avoir conscience de à quel. Donc, il propose cinq étapes, cinq stages, je ne sais pas si c'est des étapes, mais cinq niveaux de conscience. Et il invite les lecteurs à identifier mon équipe, elle est à quel niveau? À quel niveau se situe mon équipe sur ces cinq niveaux? Évidemment, l'idée est d'amener l'équipe au niveau supérieur, au niveau d'après. D'accord? Il explique bien qu'on ne peut pas sauter des niveaux, il faut passer un à un. Et voilà, donc le premier niveau, c'est on est un peu dans le désespoir, dans l'hostilité, et en gros, la conversation globale, c'est la vie, c'est de la merde. D'accord? Le deuxième niveau, on est encore bien victime, mais on se dit c'est ma vie qui est de la merde. C'est pas la vie, c'est de la merde et tout est fichu, mais c'est la mienne. La vie, globalement, elle marche pour certains, mais pas pour moi. D'accord? Donc, ça, c'est la. Après, bon, il y a peu de gens, si votre équipe, la majorité des gens dans votre équipe en sont là, ça doit être très difficile de les manager, pour être toute honnêteté. Voilà. Beaucoup de ces gens-là sont en arrêt, enfin voilà, c'est pas évident du tout, hein. Troisième étape, c'est. Alors, c'est un peu celle du guerrier solitaire. Et la conversation globale, c'est moi, je suis formidable, mais toi, tu l'es moins que moi. Donc c'est voilà, c'est l'individu qui essaye d'amener le meilleur de lui-même, mais qui en même temps, ce qui l'intéresse surtout, c'est d'être le meilleur. D'accord? Donc ça, il y a beaucoup de... Là, on retrouve plus des choses où peut-être certains auditeurs reconnaissent une espèce de culture d'entreprise où c'est un peu ça le jeu qui se joue. D'accord? Après, le quatrième niveau, là, c'est la fierté de la tribu, tribal pride, la fierté de la tribu. Et là, on se dit, on est super, on est formidable, mais les autres sont nuls. Mais voilà, on est meilleur, on est formidable, mais les autres sont nuls. Et puis le dernier niveau, c'est on est formidable, la vie est formidable, tout le monde est formidable, tout le monde fait de son mieux. Enfin, c'est vraiment une confiance, une culture d'abondance, de possible, de bienveillance globale sur tout le monde. Et donc voilà, ce livre, d'un point de vue vraiment managérial et qui adresse vraiment les thématiques de l'entreprise, nous présente ces cinq niveaux et donne des clés pour amener les équipes à un niveau supérieur.
Et tu avais un autre livre.
Alors voilà, j'ai un autre livre qui est un peu une blague, mais qui en fait n'est pas vraiment une blague. Et moi, c'est un livre qui est normalement un livre de parentalité, qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, de Adèle Faber et Hélène Maslisch. Et pour moi, ce livre est une bible sur le rapport humain et sur comment est-ce que je peux rentrer. La vie et le travail est un espace de relations humaines. Aujourd'hui, tout travail se fait avec d'autres, que ce soit nos collègues, mais aussi nos clients, le banquier. Enfin, il y a toujours d'autres personnes impliquées dans le travail. Et ce livre, voilà, est une bible pour nous donner des clés pour réussir à tisser des liens avec les autres. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais très souvent, quand on parle aux autres et notamment quand on essaye de collaborer ou de créer des choses ou de faire d'attirer l'attention des autres sur un besoin spécifique que nous avons, très souvent on utilise une communication qui construit des murs au lieu de tisser des liens. Et donc voilà, ce livre, Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, bien évidemment, marche, les outils proposés marchent extrêmement bien avec ces enfants, mais finalement marche aussi extrêmement bien avec toutes les personnes qu'on côtoie au quotidien.
Et on va finir avec une citation qui pourrait que voilà, qui te parle.
C'est une citation qui est très connue, qu'on entend énormément, mais qui vraiment, moi, m'aide énormément dans ma vie. C'est Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et dans cette citation, en fait, ce qui est derrière et qui vraiment m'active, c'est que ça ne sert à rien de pointer du doigt les coupables et d'être dans le jugement, en fait. Je peux passer ma vie à juger et à dire comment il faudrait que les choses soient. Et en fait, quand je fais ça, je ne fais rien, je ne crée rien. Et ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est d'être acteur de ce monde, d'être acteur de changement. Et c'est bien plus dur d'être sur le terrain de jeu de la vie. Quelque part, quand on est dans le jugement, c'est comme quand on est sur les gradins et qu'on commente un match. Alors, c'est très facile de dire, oh, il aurait dû courir à gauche, il aurait dû courir plus vite, il aurait dû aller à droite. Ça, c'est très facile. C'est beaucoup plus dur d'être sur le terrain et de s'entraîner tous les jours, même quand il pleut, qu'il vente et qu'il neige, pour le grand match du jour où il y aura tout le public dans le stade.
Merci beaucoup, Christine. Où est-ce qu'on peut te joindre le plus facilement?
Le plus facilement et pour avoir vraiment une idée globale de ce que je fais, c'est sur mon site christinelevicky.com. qui résume tout ce que je fais. Et je suis aussi très active sur Facebook et Instagram. Et j'ai notamment une page pro, Christine Lewicki, auteure conférencière, sur laquelle je poste...
Que je mettrai en lien dans l'article qui sera joint donc à ce podcast sur iTunes, sur SoundCloud et sur le blog Moodstep. Et pour conclure, eh bien sache, je pense que t'es pas au courant, mais depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai maintenant une baguette magique. Et je peux exaucer tes vœux. En fait, cette baguette, elle sert à... De quoi t'as envie maintenant? Vers quoi tu vas? Quels sont tes projets?
J'aimerais beaucoup que mon livre « J'arrête de râler » trouve sa place aux États-Unis.
Donc la version 1.
Oui, « I quit complaining ». J'ai un éditeur, donc il va sortir à l'automne. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'il trouve sa place et que je puisse continuer à partager ce message qui a profondément transformé ma vie avec les personnes que je côtoie au quotidien qui sont autour de moi. Voilà, ça c'est un de mes grands rêves et un de mes grands projets.
Tu vas jamais revenir en France en fait.
On renouvelle le visa dans quelques semaines, donc on verra bien.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Johanna.
C'est toujours super de te parler, Christine. Et puis, je te souhaite beaucoup de réussite.
Merci beaucoup, Johanna. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai du plaisir à échanger avec toi. Tu m'as posé des questions qui étaient pertinentes, qui étaient authentiques, qui sont les vraies questions que les gens se posent. Donc, ça rend la conversation et le dialogue très agréable.
Bon, je veux pas créer d'irritants. Ce podcast a été très long, donc j'arrête tout de suite. Conclusion extra rapide, parce qu'en plus, il fait beau. Aucune raison de râler. J'habite à deux minutes de la plage. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Nous allons parler d'ethnologie, d'anthropologie, comment ça s'applique au monde de l'entreprise. Énigme. À la semaine prochaine.